Chapitre 2. Depuis les premiers jours de son mariage jusqu'en ce moment, la baronne avait aimé son mari, comme Joséphine a fini par aimer Napoléon, d'un amour admiratif, d'un amour maternel, d'un amour lâche. Si elle ignorait les détails que Crevel venait de lui donner, elle savait cependant fort bien que depuis 20 ans, le baron Hulot lui faisait des infidélités. Mais elle s'était mis sur les yeux un voile de plomb. Elle avait pleuré silencieusement, et jamais une parole de reproche ne lui était échappée. En retour de cette angélique douceur, elle avait obtenu la vénération de son mari, et comme un culte divin autour d'elle. L'affection qu'une femme porte à son mari, le respect dont elle l'entoure, sont contagieux dans la famille. Hortense croyait son père un modèle accompli d'amour conjugal. Quant à Hulot fils, élevé dans l'admiration du baron, en qui chacun voyait un des gérants qui secondèrent Napoléon, il savait devoir sa position au nom, à la place et à la considération paternelle. D'ailleurs, les impressions de l'enfance exercent une longue influence, et il craignait encore son père. Aussi eût-il soupçonné les irrégularités révélées par Crevel, déjà trop respectueux pour s'en plaindre, il les aurait excusées par des raisons tirées de la manière de voir des hommes à ce sujet. Maintenant, il est nécessaire d'expliquer le dévouement extraordinaire de cette belle et noble femme. Et voici l'histoire de sa vie, en peu de mots. Dans un village situé sur les extrêmes frontières de la Lorraine, au pied des Vosges, trois frères, du nom de Fischer, simple laboureur, partirent, par suite des réquisitions républicaines, à l'armée dite du Rhin. En 1799, le second des frères, André, veuf et père de Madame Hulot, laissa sa fille aux soins de son frère aîné, Pierre Fischer, qu'une blessure reçue en 1797 avait rendu incapable de servir, et fit quelques entreprises partielles dans les transports militaires, service qu'il dut à la protection de l'ordonnateur Hulot d'Hervy. Par un hasard assez naturel, Hulot, qui vint à Strasbourg, vit la famille Fischer. Le père d'Adeline et son jeune frère étaient alors soumissionnaires des fourrages en Alsace. Adeline, alors âgée de 16 ans, pouvait être comparée à la fameuse Madame du Barry, comme elle, fille de la Lorraine. C'était une de ces beautés complètes, foudroyantes, une de ces femmes semblables à Madame Tallien, que la nature fabrique avec un soin particulier. Elle leur dispense ses plus précieux dons, la distinction, la noblesse, la grâce, la finesse, l'élégance, une chair à part, un teint broyé dans cet atelier inconnu où travaille le hasard. Ces belles femmes-là se ressemblent toutes entre elles. Bianca Capello, dont le portrait est un des chefs-d'œuvre de Bronzino, la Vénus de Jean Goujon, dont l'original est la fameuse Diane de Poitiers, la Signora Olympia, dont le portrait est à la Galerie Doria, enfin Ninon, Madame du Barry, Madame Tallien, Mademoiselle Georges, Madame Récamier, toutes ces femmes restées belles en dépit des années, de leur passion ou de leur vie à plaisir excessif, ont dans la taille, dans la charpente, dans le caractère de la beauté, des similitudes frappantes, et à faire croire qu'il existe dans l'océan des générations un courant aphrodisien d'où sortent toutes ces Vénus, filles de la même onde salée. Adeline Fischer, une des plus belles de cette tribu divine, possédait les caractères sublimes, les lignes serpentines, le tissu vénéneux de ces femmes nées reines, la chevelure blonde que notre mère Ève a tenue de la main de Dieu, une taille d'impératrice, un air de grandeur, des contours augustes dans le profil, une modestie villageoise arrêtée sur son passage tous les hommes, charmés comme le sont les amateurs devant un Raphaël. Aussi la voyant, l'ordonnateur fit-il de Mademoiselle Adeline Fischer sa femme dans le temps légal, au grand étonnement des Fischer, tous nourris dans l'admiration de leur supérieur. L'aîné, soldat de 1792, blessé grièvement à l'attaque des lignes de Wissembourg, adorait l'empereur Napoléon et tout ce qui tenait à la grande armée. André et Johann parlaient avec respect de l'ordonnateur Hulot, se protégeaient de l'empereur à qui, d'ailleurs, ils devaient leur sort. Car Hulot d'Hervy, leur trouvant de l'intelligence et de la probité, les avait tirés des charrois de l'armée pour les mettre à la tête d'une régie d'urgence. Les frères Fischer avaient rendu des services pendant la campagne de 1804. Hulot, à la paix, leur avait obtenu cette fourniture des fourrages en Alsace, sans savoir qu'ils seraient envoyés plus tard à Strasbourg pour y préparer la campagne de 1806. Ce mariage fut, pour la jeune paysanne, comme une assomption. La belle Adeline passa sans transition des bouts de son village dans le paradis de la cour impériale. En effet, dans ce temps-là, l'ordonnateur, l'un des travailleurs les plus probes, les plus actifs de son corps, fut nommé baron, appelé près de l'empereur et attaché à la garde impériale. Cette belle villageoise eut le courage de faire son éducation par amour pour son mari, de qui elle fut exactement folle. L'ordonnateur en chef était d'ailleurs, en homme, une réplique d'Adeline en femme. Il appartenait au corps d'élite des beaux hommes. Grand, bien fait, blond, l'œil bleu et d'un feu, d'un jeu, d'une nuance irrésistible, la taille élégante, il était remarqué parmi les d'Orsay, les Forbins, les Ouvrards, enfin dans le bataillon des beaux de l'Empire. Homme à conquête et imbu des idées du directoire en fait de femme, sa carrière galante fut alors interrompue pendant assez longtemps par son attachement conjugal. Pour Adeline, le baron fut donc, dès l'origine, une espèce de dieu qui ne pouvait faillir. Elle lui devait tout, la fortune, elle eut voiture, hôtel et tout le luxe du temps, le bonheur, elle était aimée publiquement, un titre, elle était baronne, enfin la célébrité, on l'appela la belle Madame Hulot à Paris. Enfin, elle eut l'honneur de refuser les hommages de l'empereur qui lui fit présent d'une rivière en diamant, et qui la distingua toujours, car il demandait de temps en temps « Et la belle Madame Hulot, est-elle toujours sage ?» En homme capable de se venger de celui qui aurait triomphé là où il avait échoué. Il n'est donc pas besoin de beaucoup d'intelligence pour reconnaître dans une âme simple, naïve et belle les motifs du fanatisme que Madame Hulot mêlait à son amour. Après s'être bien dit que son mari ne saurait jamais avoir de tort envers elle, elle se fit dans son fort intérieur la servante humble, dévouée et aveugle de son créateur. Remarquez d'ailleurs qu'elle était douée d'un grand bon sens, de ce bon sens du peuple qui rendit son éducation solide. Dans le monde, elle parlait peu, ne disait de mal de personne, ne cherchait pas à briller. Elle réfléchissait sur toute chose, elle écoutait et se modelait sur les plus honnêtes femmes, sur les mieux nées. En 1815, Hulot suivit la ligne de conduite du prince de Wissembourg, l'un de ses amis intimes, et fut l'un des organisateurs de cette armée improvisée dont la déroute termina le cycle napoléonien à Waterloo. En 1816, le baron devint une des bêtes noires du ministère Feltre et ne fut réintégré dans le corps de l'intendance qu'en 1823, car on eut besoin de lui pour la guerre d'Espagne. En 1830, il reparut dans l'administration comme quart de ministre, lors de cette espèce de conscription levée par Louis-Philippe dans les vieilles bandes napoléoniennes. Depuis l'avènement au trône de la branche cadette, dont il fut un actif coopérateur, il restait directement indispensable au ministère de la guerre. Il avait d'ailleurs obtenu son bâton de maréchal, et le roi ne pouvait rien de plus pour lui, à moins de le faire ou ministre ou pair de France. Inoccupé de 1818 à 1823, le baron Hulot s'était mis en service actif auprès des femmes. Madame Hulot faisait remonter les premières infidélités de son Hector au grand final de l'Empire. La baronne avait donc tenu pendant 12 ans dans son ménage le rôle de prima donna assoluta, sans partage. Elle jouissait toujours de cette vieille affection invétérée que les maris portent à leurs femmes quand elles se sont résignées au rôle de douce et vertueuse compagne. Elle savait qu'aucune rivale ne tiendrait 2 heures contre un mot de reproche, mais elle fermait les yeux, elle se bouchait les oreilles, Elle voulait ignorer la conduite de son mari au dehors. Elle traitait enfin son Hector comme une mère traite un enfant gâté. 3 ans avant la conversation qui venait d'avoir lieu, Hortense reconnut son père aux variétés dans une loge d'avant-scène du rez-de-chaussée en compagnie de Jenny Cadine et s'écria « Voilà papa !»« Tu te trompes, mon ange, il est chez le maréchal !» répondit la baronne. La baronne avait bien vu Jenny Cadine, mais au lieu d'éprouver un serrement au cœur en la voyant si jolie, elle se dit en elle-même « Ce mauvais sujet d'Hector doit être bien heureux. » Elle souffrait néanmoins, elle s'abandonnait secrètement à des rages affreuses, mais en revoyant son Hector, elle revoyait toujours ses 12 années de bonheur pur et perdait la force d'articuler une seule plainte. Elle aurait bien voulu que le baron la prît pour sa confidente, mais elle n'avait jamais osé lui donner à entendre qu'elle connaissait ses fredaines par respect pour lui. Ces excès de délicatesse ne se rencontrent que chez ces belles filles du peuple qui savent recevoir des coups sans en rendre. Elles ont dans leurs veines les restes du sang des premiers martyrs. Les filles bien nées, étant les égales de leurs maris, éprouvent le besoin de les tourmenter et de marquer, comme on marque les poings au billard, leur tolérance par des mots piquants dans un esprit de vengeance diabolique et pour s'assurer soit une supériorité, soit un droit de revanche. La baronne avait un admirateur passionné dans son beau-frère, le lieutenant-général Hulot, le vénérable commandant des grenadiers à pied de la garde impériale, à qui l'on devait donner le bâton de maréchal pour ses derniers jours. Ce vieillard, après avoir, de 1830 à 1834, commandé la division militaire où se trouvaient les départements bretons, théâtre de ses exploits en 1799 et 1800, était venu fixer ses jours à Paris, près de son frère, auquel il portait toujours une affection de père. Ce cœur de vieux soldat sympathisait avec celui de sa belle-sœur. Il l'admirait comme la plus noble, la plus sainte créature de son sexe. Il ne s'était pas marié, parce qu'il avait voulu rencontrer une seconde Adeline, inutilement cherchée à travers 20 pays et 20 campagnes. Pour ne pas déchoir dans cette âme de vieux républicain sans reproche et sans tache, de qui Napoléon disait « Ce brave Hulot est le plus entêté des républicains, mais il ne me trahira jamais », Adeline eût supporté des souffrances encore plus cruelles que celles qui venaient de l'assaillir. Mais ce vieillard, âgé de 72 ans, brisé par 30 campagnes, blessé pour la 27e fois à Waterloo, était pour Adeline une admiration et non une protection. Le pauvre comte, entre autres infirmités, n'entendait qu'à l'aide d'un cornet. Tant que le baron Hulot d'Hervy fut bel homme, les amourettes n'eurent aucune influence sur sa fortune. Mais à 50 ans, il fallut compter avec les grâces. À cet âge, l'amour chez les vieux hommes se change en vice, il s'y mène des vanités insensées. Aussi, vers ce temps, Adeline vit-elle son mari devenu d'une exigence incroyable pour sa toilette, se teignant les cheveux et les favoris, portant des ceintures et des corsets. Il voulut rester beau à tout prix. Ce culte pour sa personne, défaut qu'il poursuivait jadis de ses railleries, il le poussa jusqu'à la minutie. Enfin, Adeline s'aperçut que le pactole qui coulait chez les maîtresses du baron prenait sa source chez elle. Depuis 8 ans, une fortune considérable avait été dissipée, et si radicalement que lors de l'établissement du jeune Hulot, 2 ans auparavant, le baron avait été forcé d'avouer à sa femme que ses traitements constituaient toute leur fortune. « Où cela nous mènera-t-il ? » fut la réponse d'Adeline. « Sois tranquille, » reprit le conseiller d'État. « Je vous laisse les émoluments de ma place et je pourvoirai à l'établissement d'Hortense et à notre avenir en faisant des affaires. » La foi profonde de cette femme dans la puissance et la haute valeur, dans les capacités et le caractère de son mari, avait calmé cette inquiétude momentanée. Maintenant, la nature des réflexions de la baronne et ses pleurs, après le départ de Crevel, doivent se concevoir parfaitement. La pauvre femme se savait depuis 2 ans au fond d'un abîme, mais elle s'y croyait seule. Elle ignorait comment le mariage de son fils s'était fait, Elle ignorait la liaison d'Hector avec la vie de Josepha. Enfin, elle espérait que personne au monde ne connaissait ses douleurs. Or, si Crevel parlait si lestement des dissipations du baron, Hector allait perdre sa considération. Elle entrevoyait dans les grossiers discours de l'ancien parfumeur irrité le compérage odieux auquel était dû le mariage du jeune avocat. Deux filles perdues avaient été les prêtresses de cet hymen, proposées dans quelque orgie au milieu des dégradantes familiarités de deux vieillards ivres. « Il oublie donc Hortense, » se dit-elle. « Il la voit cependant tous les jours. Lui cherchera-t-il donc un mari chez ses vauriennes ?» La mère, plus forte que la femme, parlait en ce moment toute seule, car elle voyait Hortense riant avec sa cousine bête, de ce fou rire de la jeunesse insouciante, et elle savait que ces rires nerveux étaient des indices tout aussi terribles que les rêveries larmoyantes d'une promenade solitaire dans le jardin. Hortense ressemblait à sa mère, mais elle avait des cheveux d'or, ondés naturellement et abondants à étonner. Son éclat tenait de celui de la nacre. On voyait bien en elle le fruit d'un honnête mariage, d'un amour noble et pur dans toute sa force. C'était un mouvement passionné dans la physionomie, une gaieté dans les traits, un entrain de jeunesse, une fraîcheur de vie, une richesse de santé qui vibrait en dehors d'elle et produisait des rayons électriques. Hortense appelait le regard, quand ses yeux, d'un bleu d'outre-mer, nageant dans ce fluide qui verse l'innocence, s'arrêtaient sur un passant, il tressaillait involontairement. D'ailleurs, pas une seule de ces taches de rousseur, qui font payer à ces blondes dorées leur blancheur lactée, n'altérait son teint. Grande, potelée sans être grasse, d'une taille svelte dont la noblesse égalait celle de sa mère, elle méritait ce titre de déesse, si prodigué dans les anciens auteurs. Aussi, quiconque voyait Hortense dans la rue, ne pouvait-il retenir cette exclamation « Mon Dieu, la belle fille !» Elle était si vraiment innocente qu'elle disait en rentrant « Mais qu'ont-ils donc tous, maman, à crier « la belle fille » quand tu es avec moi ? N'es-tu pas plus belle que moi ?» Et en effet, à 47 ans passés, la baronne pouvait être préférée à sa fille par les amateurs de coucher de soleil, car elle n'avait encore, comme disent les femmes, rien perdu de ses avantages par un de ces phénomènes rares, à Paris surtout, où, dans ce genre, Ninon a fait scandale tant elle a paru voler la part des laides au XVIIe siècle. En pensant à sa fille, la baronne revint au père. Elle le vit, tombant de jour en jour par degrés jusque dans la boue sociale et renvoyé peut-être un jour du ministère. L'idée de la chute de son idole, accompagnée d'une vision indistincte des malheurs que Crevel avait prophétisés, fut si cruelle pour la pauvre femme qu'elle perdit connaissance à la façon des extatiques. La cousine bête, avec qui causait Hortense, regardait de temps en temps pour savoir quand elle pourrait rentrer au salon. Mais sa jeune cousine la lutinait si bien de ses questions au moment où la baronne rouvrit la porte-fenêtre qu'elle ne s'en aperçut pas. Lisbeth Fischer, de 5 ans moins âgée que Madame Hulot et néanmoins fille de l'aînée des Fischer, était loin d'être belle comme sa cousine. Aussi avait-elle été prodigieusement jalouse d'Adeline. La jalousie formait la base de ce caractère plein d'excentricité, mot trouvé par les Anglais pour les folies, non pas des petites, mais des grandes maisons. Paysanne des Vosges, dans toute l'extension du mot, maigre, brune, les cheveux d'un noir luisant, les sourcils épais et réunis par un bouquet, les bras longs et forts, les pieds épais, quelques verrues dans sa face longue et simiesque, tel est le portrait concis de cette vierge. La famille qui vivait en commun avait immolé la fille vulgaire à la jolie fille, le fruit âpre à la fleur éclatante. Lisbeth travaillait à la terre quand sa cousine était dorlotée. Aussi lui arriva-t-il un jour, trouvant Adeline seule, de vouloir lui arracher le nez, un vrai nez grec que les vieilles femmes admiraient. Quoique battue pour ce méfait, elle n'en continua pas moins à déchirer les robes et à gâter les collerettes de la privilégiée. Lors du mariage fantastique de sa cousine, Lisbeth avait plié devant cette destinée, comme les frères et sœurs de Napoléon plièrent devant l'éclat du trône et la puissance du commandement. Adeline, excessivement bonne et douce, se souvint à Paris de Lisbeth et l'y fit venir vers 1809, dans l'intention de l'arracher à la misère en l'établissant. Dans l'impossibilité de marier aussitôt qu'Adeline le voulait, cette fille aux yeux noirs, aux sourcils charbonnés, et qui ne savait ni lire ni écrire, le baron commença par lui donner un éclat. Il mit Lisbeth en apprentissage chez les brodeurs de la cour impériale, les fameux Poncefrères. La cousine, nommée Bette par abréviation, devenue ouvrière en passementerie d'or et d'argent, énergique à la manière des montagnards, eut le courage d'apprendre à lire, à compter et à écrire. Car son cousin, le baron, lui avait démontré la nécessité de posséder ses connaissances pour tenir un établissement de broderie. Elle voulait faire fortune. En 2 ans, elle se métamorphosa. En 1811, la paysanne fut une assez gentille, une assez adroite et intelligente première demoiselle. Cette partie, appelée passementerie d'or et d'argent, comprenait les épaulettes, les dragonnes, les aiguillettes, enfin cette immense quantité de choses brillantes qui scintillaient sur les riches uniformes de l'armée française et sur les habits civils. L'empereur, en italien très ami du costume, avait brodé de l'or et de l'argent sur toutes les coutures de ses serviteurs et son empire comprenait 133 départements. Ses fournitures, assez habituellement faites aux tailleurs, gens riches et solides, ou directement aux grands dignitaires, constituaient un commerce sûr. Au moment où la cousine Bette, la plus habile ouvrière de la maison Ponce où elle dirigeait la fabrication, aurait pu s'établir, la déroute de l'Empire éclata. L'olivier de la paix que tenait à la main des Bourbons effraya Lisbeth. Elle eut peur d'une baisse dans ce commerce qui n'allait plus avoir que 86 au lieu de 133 départements à exploiter, sans compter l'énorme réduction de l'armée. Épouvantée enfin par les diverses chances de l'industrie, elle refusa les offres du baron qui la crut folle. Elle justifia cette opinion en se brouillant avec M. Rivet, acquéreur de la maison Ponce, à qui le baron voulait l'associer, et elle redevint simple ouvrière. La famille Fischer était alors retombée dans la situation précaire d'où le baron Hulot l'avait tirée. Ruinés par la catastrophe de Fontainebleau, les trois frères Fischer servirent en désespéré dans les corps francs de 1815. L'aîné, père de Lisbeth, fut tué. Le père d'Adeline, condamné à mort par un conseil de guerre, s'enfuit en Allemagne et mourut à Trèves en 1820. Le cadet, Johann, vint à Paris implorer la reine de la famille qui, disait-on, mangeait dans l'or et l'argent, qui ne paraissait jamais aux réunions qu'avec des diamants sur la tête et au cou, gros comme des noisettes et donnés par l'empereur. Johann Fischer, alors âgé de 43 ans, reçut du baron Hulot une somme de 10 000 francs pour commencer une petite entreprise de fourrage à Versailles, obtenue au ministère de la guerre par l'influence secrète des amis que l'ancien intendant général y conservait. Ses malheurs de famille, la disgrâce du baron Hulot, une certitude d'être peu de chose dans cet immense mouvement d'hommes, d'intérêts et d'affaires qui fait de Paris un enfer et un paradis, domptèrent la Bette. Cette fille perdit alors toute idée de lutte et de comparaison avec sa cousine, après en avoir senti les diverses supériorités. Mais l'envie resta cachée dans le fond du cœur, comme un germe de peste qui peut éclore et ravager une ville si l'on ouvre le fatal ballot de laine où il est comprimé. De temps en temps, elle se disait bien « Adeline et moi, nous sommes du même sang, nos pères étaient frères, elle est dans un hôtel et je suis dans une mansarde. » Mais tous les ans, à sa fête et au jour de l'an, Lisbeth recevait des cadeaux de la baronne et du baron. Le baron, excellent pour elle, lui payait son bois pour l'hiver. Le vieux général Hulot la recevait un jour à dîner. Son couvert était toujours mis chez sa cousine. On se moquait bien d'elle, mais on n'en rougissait jamais. On lui avait enfin procuré son indépendance à Paris, où elle vivait à sa guise. cette fille avait en effet peur de toute espèce de joug. Sa cousine lui offrait-elle de la loger chez elle? Bête apercevait le licou de la domesticité. Maintes fois, le baron avait résolu le difficile problème de la marier. Mais, séduite au premier abord, elle refusait bientôt en tremblant de se voir reprocher son manque d'éducation, son ignorance et son défaut de fortune. Enfin, si la baronne lui parlait de vivre avec leur oncle et d'en tenir la maison à la place d'une servante maîtresse qui devait coûter cher, elle répondit qu'elle se marierait encore bien moins de cette façon-là. La cousine Bette présentait dans les idées cette singularité qu'on remarque chez les natures qui se sont développées fort tard, chez les sauvages qui pensent beaucoup et parlent peu. Son intelligence paysanne avait d'ailleurs acquis, dans les causeries de l'atelier, par la fréquentation des ouvriers et des ouvrières, une dose du mordant parisien. Cette fille, dont le caractère ressemblait prodigieusement à celui des Corses, travaillée inutilement par les instincts des natures fortes, eût aimé à protéger un homme faible. Mais à force de vivre dans la capitale l'avait changée à la surface. Le poli parisien faisait rouille sur cette âme vigoureusement trempée. Douée d'une finesse devenue profonde, comme chez tous les gens voués à un célibat réel, avec le retour piquant qu'elle imprimait à ses idées, elle eût paru redoutable dans toute autre situation. Méchante, elle eût brouillé la famille la plus unie. Pendant les premiers temps, quand elle eut quelques espérances dans le secret desquelles elle ne mit personne, elle s'était décidée à porter des corsets, à suivre les modes, et obtint alors un moment de splendeur pendant lequel le baron la trouva mariable. Lisbeth fut alors la brune piquante de l'ancien roman français. Son regard perçant, son teint olivâtre, sa taille de roseau pouvaient tenter un major en demi-solde. Mais elle se contenta, disait-elle en riant, de sa propre admiration. Elle finit d'ailleurs par trouver sa vie heureuse, après en avoir élagué les soucis matériels, car elle allait dîner tous les jours en ville, après avoir travaillé depuis le lever du soleil. Elle n'avait donc qu'à pourvoir à son déjeuner et à son loyer. Puis on l'habillait et on lui donnait beaucoup de ses provisions acceptables, comme le sucre, le café, le vin, etc. En 1837, après 27 ans de vie, à moitié payée par la famille Hulot et par son oncle Fischer, la cousine Bette, résignée à ne rien être, se laissait traiter sans façon. Elle se refusait elle-même à venir au grand dîner en préférant l'intimité qui lui permettait d'avoir sa valeur et d'éviter des souffrances d'amour-propre. Partout, chez le général Hulot, chez Crevel, chez le jeune Hulot, chez Rivet, successeur des Ponce, avec qui elle s'était raccommodée et qui l'a fêtée, chez la baronne, elle semblait être de la maison. Enfin, partout, elle savait amadouer les domestiques en leur payant de petits pourboires de temps en temps, en causant avec eux pendant quelques instants avant d'entrer au salon. Cette familiarité par laquelle elle se mettait franchement au niveau des gens lui conciliait leur bienveillance subalterne, très essentielle aux parasites. « C'est une bonne et brave fille », était le mot de tout le monde sur elle. Sa complaisance sans borne, quand on ne l'exigeait pas, était d'ailleurs, ainsi que sa fausse bonhomie, une nécessité de sa position. Elle avait fini par comprendre la vie en se voyant à la merci de tout le monde. Et, voulant plaire à tout le monde, elle riait avec les jeunes gens à qui elle était sympathique par une espèce de patelinage qui les séduit toujours. Elle devinait et épousait leurs désirs. Elle se rendait leur interprète. Elle leur paraissait être une bonne confidence, car elle n'avait pas le droit de les gronder. Sa discrétion absolue lui méritait la confiance des gens d'un âge mûr, car elle possédait, comme Ninon, des qualités d'homme. En général, les confidences vont plutôt en bas qu'en haut. On emploie beaucoup plus ses inférieurs que ses supérieurs dans les affaires secrètes. Ils deviennent donc les complices de nos pensées réservées. Ils assistent aux libérations. Or, Richelieu se regarda comme arrivé quand il eut le droit d'assistance au conseil. On croyait cette pauvre fille dans une telle dépendance de tout le monde qu'elle semblait condamnée à un mutisme absolu. La cousine se surnommait elle-même le confessionnal de la famille. La baronne seule, à qui les mauvais traitements qu'elle avait reçus pendant son enfance de sa cousine, plus forte qu'elle, quoique moins âgée, gardait une espèce de défiance. Puis, par pudeur, elle n'eût confié qu'à Dieu ses chagrins domestiques. Ici, peut-être, est-il nécessaire de faire observer que la maison de la baronne conservait toute sa splendeur aux yeux de la cousine bête, qui n'était pas frappée, comme le marchand parfumeur parvenu, de la détresse écrite sur les fauteuils rongés, sur les draperies noircies et sur la soie balafrée. Il en est du mobilier avec lequel on vit comme de nous-mêmes. En s'examinant tous les jours, on finit, à l'exemple du baron, par se croire peu changé, jeune, alors que les autres voient sur nos têtes une chevelure tournante au chinchilla, des accents circonflexes à notre front et de grosses citrouilles dans notre abdomen. Cet appartement, toujours éclairé pour la cousine bête par les feux du Bengale des victoires impériales, resplendissait donc toujours. Avec le temps, la cousine bête avait contracté des manies de vieille fille assez singulières. Ainsi, par exemple, elle voulait, au lieu d'obéir à la mode, que la mode s'appliquât à ses habitudes et se pliât à ses fantaisies toujours arriérées. Si la baronne lui donnait un joli chapeau nouveau, quelques robes taillées au goût du jour, aussitôt la cousine bête retravaillait chez elle, à sa façon, chaque chose, et la gâtait en s'en faisant un costume qui tenait des modes impériales et de ses anciens costumes lorrains. Le chapeau de 30 francs devenait une loque, et la robe un haillon. La bête était, à cet égard, d'un entêtement de mule. Elle voulait se plaire à elle seule et se croyait charmante ainsi, tandis que cette assimilation, harmonieuse en ce qu'elle la faisait vieille fille de la tête aux pieds, la rendait si ridicule qu'avec le meilleur vouloir, personne ne pouvait l'admettre chez soi les jours de gala. Cet esprit rétif, capricieux, indépendant, l'inexplicable sauvagerie de cette fille, à qui le baron avait par 4 fois trouvé des partis, un employé de son administration, un major, un entrepreneur des vivres, un capitaine en retraite, et qui s'était refusé à un passementier devenu riche depuis, lui méritait le surnom de chèvre que le baron lui donnait en riant. Mais ce surnom ne répondait qu'aux bizarreries de la surface, à ces variations que nous nous offrons tous les uns aux autres en état de société. Cette fille qui, bien observée, eût représenté le côté féroce de la classe paysanne, était toujours l'enfant qui voulait arracher le nez de sa cousine, et qui peut-être, si elle n'était devenue raisonnable, l'aurait tuée en un paroxysme de jalousie. Elle ne domptait que par la connaissance des lois et du monde, cette rapidité naturelle avec laquelle les gens de la campagne, de même que les sauvages, passent du sentiment à l'action. En ceci peut-être consiste toute la différence qui sépare l'homme naturel de l'homme civilisé. Le sauvage n'a que des sentiments. L'homme civilisé a des sentiments et des idées. Aussi, chez les sauvages, le cerveau reçoit-il, pour ainsi dire, peu d'empreintes. Il appartient alors tout entier au sentiment qui l'envahit. Tandis que chez l'homme civilisé, les idées descendent sur le cœur qu'elles transforment. Celui-ci est à 1000 intérêts, à plusieurs sentiments, tandis que le sauvage n'admet qu'une idée à la fois. C'est la cause de la supériorité momentanée de l'enfant sur les parents, et qui cesse avec le désir satisfait. Tandis que chez l'homme voisin de la nature, cette cause est continue. La cousine bête, la sauvage Lorraine, quelque peu traîtresse, appartenait à cette catégorie de caractères plus communs chez le peuple qu'on ne pense, et qui peut en expliquer la conduite pendant les révolutions. Au moment où cette scène commence, si la cousine bête avait voulu se laisser habiller à la mode, si elle s'était, comme les parisiennes, habituée à porter chaque nouvelle mode, elle eût été présentable et acceptable. mais elle gardait la raideur d'un bâton. Or, sans grâce, la femme n'existe point à Paris. Ainsi, la chevelure noire, les beaux yeux durs, la rigidité des lignes du visage, la sécheresse calabraise du teint qui faisait de la cousine bête une figure du Giotto et desquelles une vraie parisienne eût tiré parti, sa mise étrange surtout, lui donnait une si bizarre apparence que parfois elle ressemblait au singe habillé en femme promené par les petits savoyards. Comme elle était bien connue dans les maisons unies par les liens de famille où elle vivait, qu'elle restreignait ses évolutions sociales à ce cercle, qu'elle aimait son chez-soi, ses singularités n'étonnaient plus personne et disparaissaient au dehors dans l'immense mouvement parisien de la rue où l'on ne regarde que les jolies femmes.